Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serros.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'habitat participatif. L'habitat participatif, vous voyez ce dont il s'agit, vaguement ? Pour y voir plus clair, deux invités. Monique Boris sera la porte-parole d'un projet lancé en 2018, bien avancé mais pas bouclé. Son nom, La Folie Solidaire. Nous verrons pourquoi. Gérard Stroman donnera une vue d'ensemble en tant que coprésident de l'association Écohabitants, qui apporte son appui au projet. Il est membre depuis 12 ans de cette association. C'est un des piliers du développement de l'habitat participatif à Montpellier. Alors merci à chacun de vous d'avoir répondu à mon invitation. Et d'abord, une première question à chacun de vous, Monique Boris. Comment vous définissez ce qu'est l'habitat participatif? Je sais pas, on vous interroge, un parent, un ami, qu'est-ce que c'est ce truc? Que lui répondez-vous?
Eh bien, choisir ses voisins, partager avec eux la gestion d'un bien, d'un immeuble, et gérer avec eux, dans ce bien, des parties communes, comme une salle commune, des chambres d'amis, et essayer, malgré tout, d'avoir son chez-soi.
Très bien. Et vous-même, Gérard?
Oui, je dirais peut-être l'objectif aujourd'hui de retrouver le village,
oui,
avec les bons côtés,
oui,
dans la ville. C'est-à-dire effectivement...
Une petite communauté.
Voilà, être proche de ses voisins, travailler sur des échanges, faire des choses ensemble. Et puis un aspect important, qui d'ailleurs aussi fait un peu la différence entre les villages et la ville d'aujourd'hui, il y a un aspect économique quand même. Hein. Quand on arrive dans l'habitat participatif, on se dit qu'en se réunissant et en étant responsable du projet, de A à Z, on espère arriver à la fin avec un coût moindre que ce que nous propose aujourd'hui l'immobilier. Si on n'y arrive pas, d'ailleurs, c'est qu'on a tout raté. Voilà.
Un coût moindre, mais des prestations de bonne qualité, malgré tout.
À prestations équivalentes, un coût moindre. Après, si on veut rajouter les prestations du bain, brunant et salle de bain, c'est en général pas le choix que nous faisons. Bien évidemment, ça augmentera le coût.
Très bien. On voit donc quelques principes. Alors, comme vous le savez, avant que nous parliez de l'habitat participatif de manière détaillée, petit détour, comme d'habitude dans cette émission, à votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors, Gérard Stroman, quel est le lieu de Montpellier auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi ?
Alors, c'est un quartier très connu aujourd'hui, qu'il était beaucoup moins quand j'y étais, j'y suis plus. C'est le quartier des Beaux-Arts.
Oui, hein, et ça a changé ce quartier.
Ça a changé, hein. Mais j'y étais même, je dirais presque d'une façon un peu logique, puisque j'y avais là-bas un atelier de sculpture sur marbre.
D'accord. Et c'était autant, on appelait ça le quartier des abattoirs, avant que ça porte un nom.
C'était déjà fini, les abattoirs.
Hein. D'accord.
Voilà, on allait vers l'évolution qui est aujourd'hui. Mais ça reste effectivement un quartier où il y a un mélange de gens, de genres. Il faut savoir que les Beaux-Arts, il y a un siècle, c'était des jardins et des bâtiments qui appartenaient à l'Église catholique, oui, essentiellement.
Ouais, qui avait à l'époque à Montpellier des propriétés foncières là, considérables.
Très importantes à cet endroit-là, justement.
Très bien. Et vous-même, Monique, alors
Moi, c'est pas très original, mais j'adore le Jardin des Plantes. Ouais. Et surtout, j'adore la rue Jean-Jacques Rousseau. Et alors, l'été, quand les martinets arrivent sur Montpellier, les soirées, je trouve ça extraordinaire.
Très bien.
Les vieilles rues.
C'est à quelle époque, cette période particulière, là, l'arrivée des martinets?
Eh bien, là, en ce moment, ça va bientôt arriver, où ils sont déjà là, sur certains coins, je crois.
Un peu en avance, peut-être,
avec le changement climatique.
Très bien. Alors, une fois ces petits détours faits, venons-en aux réalisations et aux projets d'habitat participatif. L'habitat participatif, ce n'est pas un phénomène massif, mais il n'est pas anecdotique. Alors, quelques chiffres. Fin 2024, il y avait 1171 projets en France. Entre 2021 et 2024, le nombre de projets a augmenté de 10 à 15% par an. On voit le mouvement. Et fait notable, peut-être pas tout à fait moins connu, plus de projets à la campagne qu'en ville à l'époque et plus de réhabilitation que de construction neuve. Alors, on va parler de projets en ville et de construction neuve, mais gardons en tête les caractéristiques de ce phénomène. Jean Stroman, est-ce que vous pouvez à grands traits nous dire ce que vous avez observé depuis une dizaine d'années, s'il y a une évolution à la hausse des projets, et d'un projet non seulement lancé, mais également abouti?
Ah, sur le territoire, effectivement, dont s'occupe Écohabitants, à savoir l'Hérault et depuis peu un petit peu le Gard, on a fortement, fortement développé le nombre de projets. Hein, puisque moi, je crois que je suis arrivé dans le quatrième qui était habité, en incorporant d'ailleurs la métropole, hein, puisque le troisième, c'était à Fabrègues. On est aujourd'hui à 11 projets habités et on en a 6 en chantier et on en a une dizaine encore en projet sur ce territoire. Donc on a un fort développement, notamment alors grâce au fait que c'est davantage connu, grâce au fait que la facilité ou plutôt les difficultés d'accès à un logement sur ce territoire n'ont malheureusement pas diminué, ont plutôt augmenté. Donc l'aspect économique dont je parlais tout à l'heure est important.
C'est un des moteurs.
Tout à fait.
En fait, de gens se lancent dans cette démarche.
Tout à fait. Et le fait, en plus, de le faire en groupe reste important aussi, hein, parce que qui dit prix élevé dit parfois aussi des risques financiers quand on les prend seuls, face à un promoteur, face à un agent immobilier qui commercialise, face à des professionnels, c'est pas évident. Hein. Il vaut mieux être groupé. Hein.
Très bien. Alors on va voir ça de plus près. Alors Monique Maury, racontez-nous, en grand trait, la folie solidaire. Alors, solidaire, on va voir comment, mais folie, pourquoi folie?
C'est un petit clin d'œil, disons, on savait qu'il y aurait un lot, certainement, sur la ZAC Beausoleil. Et la ZAC Beausoleil, sur l'avenue de l'Odève, elle est à côté d'une folie qui s'appelle la piscine.
Voilà, une folie historique, qui n'est pas les folies
anciennes,
de fraîche date.
Voilà, et on a trouvé qu'on voulait être solidaire et on devait être un peu fou aussi. Et comme la folie n'était pas loin, et bien voilà.
En tout cas, une folie positive.
Voilà.
Donc, à côté de la clinique Beausoleil, bien entendu, et à peu près en face, le lycée Jules Guay, pour repérer, oui, que les Montpellierains repèrent où nous allons. Alors, comment ce projet est-il né? Quelles sont un peu les prémices, les premières étapes, telles que vous les avez vécues?
Alors, on a assisté à une bourse au projet organisée par APFAB, qui est une coopérative qui aide à monter les projets et qui les suit. Et là, on s'est retrouvés quelques-uns, quelques-unes, à se dire, eh ben, il n'y a plus de place dans ce qui existe déjà, disons. Puisque
oui, les projets en cours étaient bouclés. Quoi,
voilà, c'est-à-dire que ces projets-là, ils veulent être intergénérationnels, souvent. Et nous, on arrivait un peu âgés.
Ah, donc, on a... Une bodice perfecte.
Voilà, constitué donc une association. Et on s'est mis avec une convention avec APFAB pour qu'ils nous aident dans ce montage et ce suivi.
Donc APFAB comme Habitat et Fabrication,
qui
apporte un accompagnement, mais on vous demandera plus loin ce qu'ils font avec vous. Donc ça a été le démarrage.
Voilà.
Et quels étaient les ressorts, les motivations des personnes? On les a un peu dites là, oui, depuis le début de l'émission, mais peut-être que vous les avez perçues.
Oui, je crois que chacun se pose la question du logement quand même. C'est très très dur de vivre dans une ville et de voir tant de gens dans la rue, je trouve. Bon, on peut apporter une petite pierre, je dis, elle est peut-être toute petite, mais voir comment on peut mieux habiter et puis qu'il y ait plus d'accès, parce qu'il y a l'intergénérationnel et puis le côté aussi social, ce mélange qu'on voudrait dans ces habitats.
On va y revenir. Donc, il y a cette réalité, une crise du logement ou une pénurie de logement qui ne date pas d'hier, qui se perpétue et dont on peut penser qu'elle a tendance plutôt à s'aggraver pour un certain nombre de raisons qui tiennent au développement de la ville et au contexte général de crise du logement en France. Hein, logement social, mais pas seulement. Alors vous-même, tels que vous avez percevé les ressorts du lancement de projet, et notamment le projet que vous avez contribué à monter, qui s'appelle donc Ecovia, Avenue d'Assos, là aussi, quelles étaient les motivations à l'époque, il y a quelques années donc?
Alors, les miennes étaient évidentes, puisque je militais déjà dans, dans l'association Écohabitons depuis un moment. Et c'est vrai qu'elles arrivaient aussi, puisqu'on parle de pénurie de logements, une de mes motivations, c'était la pénurie en matière de, je dirais, de solidarité et de lien social.
Une manière de vivre.
Voilà, tout à fait.
Distincte du droit de.
Voilà, puisque comme tout un chacun, hein, j'ai eu l'occasion à un moment donné de vivre un divorce, etc. Donc toutes choses qui font qu'aujourd'hui, dans une grande ville, quand vous n'êtes plus dans une grande famille comme dans le temps, etc. Les familles sont complètement disloquées. Hein. Moi, je suis né à 700 km d'ici. Cherche là, effectivement, d'arriver à se regrouper pour vivre un certain nombre de choses ensemble, tout en ayant chacun son logement à titre privatif. Hein. Ce n'est pas une secte, ce qui nous reproché, il est arrivé qu'on nous le reproche, hein, des gens qui n'y connaissaient rien, effectivement.
Comme si c'était quelque chose, d'abord, quand même.
Se demandait, et puis aussi.
Presque suspect, quoi.
Voilà, et puis à un moment, on parlait peut-être plus de secte dans les médias que d'habitat participatif pendant les faits divers, donc ça pouvait être une idée saugrenue qui nous arrivait. Non, c'est loin de là, par contre, il y a une recherche de vivre ensemble, de vivre une façon d'habiter, effectivement. Avec des valeurs qui disparaissent un peu. Elles existent encore. Hein,
en tout cas, qui sont difficiles à faire vivre.
Qui sont difficiles, de plus en plus difficiles à faire vivre, surtout dans une ville qui a un fort rapport de population. Hein. Je ne suis pas le seul à arriver de loin, bien évidemment.
Oui, la croissance démographique continue de Montpellier depuis 30 ans.
Fait, oui. Tout à fait. Hein, les Montpelliérains de souche qui se connaissaient et qui. C'est de plus en plus rare. Hein. Donc forcément, on est dans un environnement urbain nouveau, mais avec les inconvénients souvent sur le plan humain.
Et ces motivations, les vôtres, elles étaient partagées grosso modo par les autres participants, les gens qui se sont réunis dans ce projet Écovien.
Tout à fait. Alors après, il y a aussi, comme j'ai commencé à le souligner précédemment, nous, quand l'association mène un projet, elle part avec l'idée, elle explique aux gens, écoutez, si on n'arrive pas à être 20% moins cher que ce que vous propose le promoteur à côté, même prestation sur le même terrain, etc., puisque là, moi, où je suis, par exemple, il y a 5 immeubles. Il y en a 3 qui ont été créés par des promoteurs. Le quatrième, c'est les logements sociaux. Mais à l'époque, moi, je suis rentré à 3150 euros le mètre carré. Le premier prix du promoteur à côté, c'était 4000.
D'accord, c'est 20% plus cher.
Il y a de ça 7 ans.
D'accord.
Voilà. Donc on leur dit, non seulement il faut qu'on arrive à un coût moindre, mais en plus, il faut qu'on ait des choses sur le plan du vivre ensemble, en plus, par exemple, des espaces partagés. Hein, c'est une donnée importante, je pense que la Folie Solidaire a prévu cela aussi. Les espaces partagés, en dehors de notre logement en titre privatif, salle commune, buanderie, atelier, jardin, etc., etc. Chaque groupe choisit, mais c'est très important.
Très bien, on commence à dessiner ce que peut être l'habitat participatif. Alors, Monique Bourri, dans la description du projet de la Folie Solidaire, un document que vous m'avez confié, très, très précis et très élaboré, un point m'a frappé, c'est le soin apporté aux procédures de travail et de décision. Alors, pourquoi cette priorité et comment s'est-elle traduite dans le groupe qui a commencé à travailler sur le projet ?
Je pense que ce qui est important pour qu'un groupe, travaille bien ensemble et que tout se passe bien, c'est qu'il faut effectivement des procédures et puis une démocratie, je dirais, en action, quoi. C'est-à-dire que nous nous réunissons une fois par mois.
Depuis le début, depuis 2018, donc.
Depuis 2018, nous avons mis en place des groupes de travail du style bien vieillir, du style accessibilité pour tous, du style juridique, relations avec les organismes auxquels nous avons affaire, la communication extérieure, voir comment on peut travailler aussi, parce que l'idée, c'est de ne pas s'enfermer entre nous, avec nos bonnes idées, c'est une ouverture sur le quartier. Nous avons établi des contacts avec les comités de quartier déjà pour voir ce qu'on peut, parce que cette salle commune que nous allons partager, elle doit aussi
s'ouvrir aux associations du quartier.
Voilà.
Oui.
Voilà. Et puis,
alors, comment les décisions sont prises rapport aux formules habituelles ?
Je crois que c'est...
Il faut en dire un mot, donc j'introduis. Ce n'est pas le consensus, c'est le consentement. Donc, Quelle est la petite mécanique qui fait en sorte que les points de vue se rapprochent et, de manière générale, confluent, se retrouvent très largement.
Oui, et moi, je trouve que c'est très intéressant à vivre. Nous prenons des décisions par consentement. On ne veut pas de minorité qui serait déçue, qui serait, laissée de côté. Donc, on a une façon de prendre des décisions et je trouve que là, on voit tout d'un coup l'intelligence collective qui est en place, en fait. On fait un premier tour. Une question est posée, on demande si tout le monde l'a bien, la comprend, si on peut rajouter des choses.
Donc partage des informations.
Voilà, partage. Deuxième tour de table, comment on le ressent ? Est-ce qu'on est bien avec cette proposition ou pas ? Troisième tour de table, est-ce qu'on a des objections ? Et ça, c'est important. Les objections doivent être, oui, ça va mettre en cause notre projet de départ, nos valeurs, mais on ne fait pas des objections pour faire des objections, parce qu'on a choisi une couleur de mur qui ne plairait pas aux autres.
Bien sûr.
Voilà, et puis, eh ben, on vote.
Donc, c'est dans ce processus-là, par étapes, hein, qui conduit, je dirais, à chemin faisant, étape après étape, à consolider le projet et à consolider le groupe lui-même.
Tout à fait. Et à chaque début de réunion, on se rappelle une espèce de cadre de sécurité. L'écoute des autres, il y a un certain nombre de rôles qui sont distribués, celui qui prend des notes, celui qui donne la parole, celui qui a la maîtrise du temps, et celui qui est même un peu, disons, l'ambianceur, entre guillemets, c'est-à-dire quand les débats partent un peu, ou dans l'agressivité, ou dans s'éparpillent. Donc je trouve que les réunions sont très riches. Elles se
passent... Les gens jouent le jeu d'une manière générale.
Oui. Elles sont vraiment...
Il se peut qu'il y a des gens qui quittent le projet, mais c'est
non,
pour
c'est
d'autres raisons.
Non, c'est pas pour ces raisons, oui, d'accord. Oui. Il y a vraiment une bienveillance, je trouve, très importante à
et
cause...
agréable à vivre.
Voilà, et agréable à vivre. Et on espère qu'elle va se renforcer. Enfin, moi, j'ai assisté à des prises de décision où vraiment on se disait... Oh, mais là, on a senti qu'on avait vraiment ensemble...
Au coude à coude.
Voilà, oui.
D'accord. Et alors, cher Astroma, bon, question générale, c'est votre rôle. Est-ce que cette exigence démocratique particulière, c'est une des conditions du bon aboutissement des projets, une des voies du succès, de la réussite du projet ?
Oui, oui, tout à fait. Et puis c'est surtout, disons, ce qui va faire qu'ensemble, ça se passera bien ensuite aussi. Hein, parce qu'il y a la phase projet, où nous construisons en quelque sorte, nous mettons nos idées ensemble et il faut forcément arriver à donner à l'architecte, au constructeur, etc., un certain nombre de volontés communes. Donc ça, c'est pas évident, hein, c'est pas chacun pour soi, sauf sur un certain nombre de détails qui concernent son propre logement, bien évidemment. On peut se retrouver avec des individualités. Mais ensuite, pour le vivre ensemble plus tard, il est important aussi qu'une salle commune, mais on va faire des choses ensemble. On l'utilisera aussi parfois pour faire des choses qui ne me concernent que moi, qui ai envie de faire quelque chose avec des amis ou la famille, mais ça veut dire à tour de rôle, ça veut dire comment on organise tout ça. Donc de toute façon, ça reste un processus important. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que on élimine tout conflit possible. Hein. En général, très très vite dans les habitats participatifs, notamment quand il n'y a peut-être plus la phase d'enthousiasme sur on est ensemble pour se projeter, mais qu'il y a la phase un peu du vécu quotidien avec chacun ses soucis et sa vie un peu personnelle.
Une phase plus astreignante peut-être.
Voilà, on va très très vite souvent vers on se crée une commission de conflit, on se crée des mécanismes pour résoudre des conflits. Ça se fait assez régulièrement, hein, c'est normal. Mais je veux dire, on le fait en interne. Je veux dire, moi, j'ai pas eu connaissance jusqu'à maintenant où le conflit finissait au tribunal, au sein d'un habitat participatif. Voilà. Mais par contre, il pouvait y avoir, y compris pendant la phase de construction, comme vous disiez tout à l'heure. Moi, j'ai connu des groupes où, bien sûr, il y a des gens qui repartaient. Le conflit étant ne pouvant pas être résolu. Que ce soit d'ailleurs interpersonnel, ça peut exister,
oui,
c'est plus rare.
Sûr.
Mais ça peut être un conflit sur la façon dont on se projette dans ce futur habitat.
Au fur et à mesure que les décisions de fond sur la configuration...
Voilà, chacun... La grande difficulté dans l'habitat participatif, c'est de passer souvent du rêve à la réalité. Hein. C'est-à-dire, on se dit, on va mettre des sous, que ce soit d'ailleurs en tant que locataire ou en tant que propriétaire. De toute façon, on mettra des sous dans notre habitat. On va mettre des sous, mais moi je rêve d'avoir l'idéal. Mais l'idéal, quand on se heurte à des contingences techniques, architecturales, bien réglementaires, administratives, bah, l'idéal, parfois, il faut composer. Composer avec et il faut composer ensemble, comme l'a expliqué Monique, en se mettant d'accord sur quel compromis on va accepter entre nous.
Alors ça, on a bien compris ce processus, cette démarche. Alors, un des points les plus déterminants en cas de construction neuve, c'est le terrain, bien sûr. À Montpellier, la ville a décidé de réserver un lot pour l'habitat participatif dans chaque nouvelle opération d'aménagement, les ZAC, là, les zones d'aménagement concertées. Cette aide a été mise en œuvre déjà au Mascobado dans le quartier des Grisettes, à Clémencité, au passage Clémenceau, et à Terradora, la cité créative. Alors, comment ça s'est passé pour vous, là, cette entrée dans cette démarche facilitée par la ville pour l'attribution, oui, ce qui était bien sûr plus qu'important, d'un terrain?
Eh bien, on a répondu à un appel, à une manifestation d'intérêt de la métropole et d'ACM, le bailleur donc de Montpellier, où on s'est présenté devant un jury avec tout ce qu'on avait déjà mis en place. Et nous avons été retenus donc pour le lot 5 de la ZAC Beausoleil. Ce, depuis 2023.
D'ailleurs, 5 ans après le démarrage du tout début du
tout
projet.
À fait,
quoi,
tout à fait.
Très bien.
Et voilà.
Oui, il faut préciser d'ailleurs que les premiers projets là, que vous avez mentionnés, la délibération concernant ce principe qu'un habitat participatif par ZAC n'existait pas, par exemple.
Oui, bien sûr.
Ils se sont faits dans des conditions beaucoup plus difficiles. Ouais. D'ailleurs, c'est une des raisons d'être de l'association Ecohabitons, qui existe depuis 2018, c'est souvent le plaidoyer auprès des élus pour essayer d'avoir des facilités en matière d'accès au foncier. Alors, grâce à cette délibération, sur Montpellier, c'est fait. Ça ne veut pas dire, par exemple, que sur l'Hérault, ailleurs, ce soit fait.
Hein. Bien sûr. C'est une politique publique propre à la
ville
et à la métropole.
Il faut continuer, essayer de convaincre des maires. On a réussi, par exemple, très très bien à Murviel, où il y a un projet, parce que la mairesse était particulièrement favorable. Mais ce n'est pas toujours
bien
facile,
sûr,
hein, parce qu'il faut savoir qu'à côté de ce type de projet où c'est les habitants qui, en quelque sorte, deviennent leurs promoteurs, c'est ce que dit la loi, hein, même si on a besoin de tous les professionnels du métier, bien sûr, de l'immobilier, ben, on a souvent face à nous tout simplement les promoteurs. Et quand il s'agit d'acheter un terrain, je peux vous dire qu'on n'est pas... On n'arrive pas parmi les premiers avec ce qu'on a sur nos comptes en banque. Hein.
Bien sûr. Alors, vous avez évoqué, mais il est temps de préciser, Ecohabitons. Alors, quel est le rôle des associations? Quelles sont ces différentes actions? Et puis, vous nous direz comment on peut vous joindre pour ceux des auditeurs,
oui,
auditeurs
alors,
qui pourraient être intéressés.
Voilà, le rôle essentiel à côté du côté plaidoyer dont je viens de parler, on constitue en quelque sorte la fédération de tous les projets qui se font aujourd'hui sur ce territoire. Même quand un projet a un accompagnement complet, c'est le cas de la Folie Solidaire, c'est-à-dire c'est des professionnels qui vont être rémunérés pour accompagner le groupe. Il y a un tas de projets
dont nous avons parlé.
Voilà, c'est ça. Il y a un tas de projets, le mien par exemple, où c'est les membres de l'association qui considéraient qu'ils avaient suffisamment de compétences, soit eux-mêmes de par leur expérience passée, soit effectivement parce qu'autour de la table, autour du groupe d'habitants, il y a aussi souvent des compétences.
Bien sûr.
On peut avoir un architecte qui vit dans un habitat participatif, on peut avoir des gens qui vont faire la comptabilité, qui vont nous gérer tout l'aspect financier, etc. Et dans ce cas-là, c'est vraiment de l'autopromotion, en quelque sorte. On se débrouille nous-mêmes, du moins pour encadrer et accompagner le projet. Les professionnels, on en a toujours besoin. Hein. On ne s'improvise pas architecte ou constructeur. Hein. C'est souvent le promoteur dont on limite effectivement l'intervention, et c'est surtout la commercialisation dont on limite l'intervention, et c'est là où il y a
des marges, disons,
c'est là où Ecohabitons ben, c'est souvent 20% du prix quand vous entrez, quand vous avez un logement offert par un promoteur, la commercialisation c'est souvent 20% du prix de votre logement, hein. Donc là c'est Ecohabitons qui, en quelque sorte, association à but non lucratif, va faire en sorte qu'on a un tas de gens qui sont demandeurs aujourd'hui d'habitat participatif. On a ça dans nos listings. Et à partir de cela, il n'y aura pas de frais de commercialisation, si vous voulez. À partir du moment où le projet est monté, il y aura tous les autres frais. Hein,
on comprend logement. Mieux le montage et l'intérêt de la formule.
Voilà.
Il faut poursuivre, là, le temps,
oui, oui.
Le temps passe. Alors, voyons de plus près, donc, Monique Maury, où en est le projet, là Donc 22 logements, c'est
22
bien ça
logements.
Il y a encore des places.
Bien sûr, nous sommes prêts à accueillir encore une dizaine de foyers. Nous sommes 12 foyers. Et là, actuellement, on espère très vite un permis de construire. Nous sommes en lien donc avec l'architecte.
Dans le mois.
Oui, on dirait quelques mois là, oui.
D'accord. À l'automne, disons, avec quelque chose
voilà.
comme ça. Quoi.
Voilà.
Très bien.
À l'automne, et puis voilà, les choses vont se dérouler. Il faut savoir donc que c'est ACM qui construit, hein, qui vend et qui loue. Donc nous avons aussi une structure à la Folie solidaire qu'on accueille différentes façons d'habiter, puisque nous avons du logement social, nous avons l'acquisition à la propriété en bail réel solidaire, c'est-à-dire on n'achète pas le terrain, mais on n'achète que notre appartement. Nous avons 7 appartements coopératifs et puis 3 appartements qui sont au prix du marché, on dirait.
Voilà. Donc une diversité
voilà.
de modes d'occupation,
tout
locataire, propriétaire.
Et
de coûts, on ne rentre pas dans les détails,
oui,
on montre bien que
oui.
ce n'est pas la formule obligée. Il y a cette diversité de formules et de diversité d'habitants, bien entendu. Alors,
je voulais juste dire un petit mot quand même sur notre désir d'être le plus accessible possible.
Oui.
Dans notre groupe, il y a quelqu'un qui est en fauteuil. Nous avons signé une convention avec le CLCPH, qui est le comité de liaison d'un certain nombre d'associations qui s'occupent du handicap.
Ça fédère plusieurs associations.
Et qui vont, et déjà nous ont aidés pour nous dire n'oubliez pas ça, regardez ça, êtes attentif à ça. On s'est appuyé aussi sur ces savoirs-là. Hein. C'est important. Alors,
d'ailleurs, d'une manière plus générale, mais vous l'avez dit, Gérard Stroman, oui. Cette idée d'aller chercher des compétences, qu'elles soient rémunérées,
oui.
des prestations
oui.
achetées ou vendues, ou qu'elles soient du fait de bénévoles dans un engagement oui. De type associatif, ça aussi, me semble-t-il, ça fait partie un peu des carburants là, de la marche des projets, là, Gérard Stroman, cette manière de tisser des liens.
Tout à fait, tout à fait. Et ensuite, c'est ce qui fait que, à partir du moment, ces derniers temps, l'association permet à des gens qui démarrent avec aucune connaissance, aucune idée, ben ils vont trouver chez ceux qui habitent déjà, ils vont trouver chez ceux qui sont en train de mener leur projet comme la Folie solidaire, ben ils vont trouver un tas d'idées, un tas d'expériences, et ils arriveront d'autant plus facilement à avancer.
Quoi, contribue à partager.
Voilà.
Quoi.
Et à éviter des erreurs, à éviter des écueils. Hein, et comme vous
partage d'expérience et de pratique.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On développe aussi, par exemple, des petites formations. Donc, c'est souvent l'occasion de formaliser un peu le partage d'expérience à une formation.
Alors, revenons à la Folie solidaire. Comment les personnes intéressées, là, parmi nos auditrices, peuvent-elles vous joindre? Il y a deux rendez-vous que vous allez nous proposer.
Voilà. Alors, il y a un rendez-vous le 10 juin à la brasserie Le Dôme, cours Gambetta.
Donc, c'est à l'angle de Gambetta
et, voilà,
et de l'avenue Clémenceau.
Tout
là.
À fait. Et donc, à 18h15, pour pouvoir... Donc, on va faire une présentation du projet.
Très bien.
Et puis, nous utilisons, disons, gentiment, la permanence d'Écohabitons, puisque nous sommes aussi adhérents d'Écohabitons. Et donc, nous avons une permanence tous les deuxièmes mardis du mois, rue Durand, salle Galago.
Au 14, sauf.
Au 14, c'est
14
ça.
Durand. Donc, voilà.
Et
donc,
on peut aussi nous écrire à lafoliesolitaire@laposte.net et puis prendre contact avec nous, parce qu'il y a effectivement une procédure d'intégration. Il faut assister à 3 réunions complètes plénières. Et là où on a toutes les informations qu'il faut.
Voilà les portes auxquelles on peut frapper
voilà.
aisément. Alors,
oui.
on arrive à la fin de l'émission. Alors, je vais vous demander, l'un et l'autre, quelles sont les idées reçues, les idées fausses hein, sur l'habitat, parce que vous avez certainement rencontré des choses qui se baladent, qui sont fausses. Alors, Monique, qu'est-ce qui, j'imagine, peuvent vous agacer à force que ces bêtises soient répétées?
Du style, moi, je veux être chez moi, mais qu'est-ce que c'est? C'est une secte, comme a dit Gérard, ou un kolkhoz. Mais non, on peut être chez soi et partager des choses comme la salle commune. Moi, je voudrais insister sur le fait que on peut avoir un logement plus petit que ce qu'on avait prévu, donc moins coûteux, parce qu'on a une grande salle où on peut réunir nos amis ou faire des
tâches. Ou parce qu'on partage la machine à laver le linge.
Exactement, et les chambres d'amis, et quand on reçoit la famille ou des amis. Donc voilà, l'idée qu'on peut vivre ensemble sans être dans une secte ou un kolkhoz.
Gérard, oui, même question pour conclure.
Oui, je démarre juste avec le fait que pour joindre Écohabitant, ceci est un site, hein, écohabitant.org, et on y trouve tous les projets.
Ça, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les réalisations ? Quels sont les organismes ou associations d'appui ? Ça, qui m'a beaucoup aidé. Moi, pour préparer l'émission, vous le trouverez.
Ces derniers temps, on fait monter en puissance un nouveau projet du côté d'Ovalie.
Oui.
Alors, ce n'est pas uniquement pour ceux qui aiment le rugby.
Alors, donc, il y aura un lot réservé à l'habitat participatif avec la même formule d'appel à projet.
On est dans une ZAC et il y aura effectivement un terrain qui est réservé sur lequel on va se mettre à recruter effectivement des gens. Donc, comme j'ai dit, vous aimez le rugby, vous ne l'aimez pas, même si le stade est à 200 mètres.
Ça fait des clameurs les jours de
ça. Ça fait des clameurs le jour peut-être. Par contre, vous avez d'autres commodités à côté, hein, c'est un nouveau quartier. Mais alors, pour des idées fausses, moi, il y a quelque chose que j'ai découvert au fil des années et qui est un peu dû à notre succès. C'est-à-dire, certaines personnes qui arrivent à l'habitat participatif se disent, d'une part, ça coûte vraiment pas cher. Alors que malheureusement, lorsqu'on construit avec les matériaux,
le prix
de l'énergie, le pétrole, je ne vous en parle pas, etc. aujourd'hui, ça aura un certain coût.
Bien sûr. Hein,
ce n'est pas parce que c'est de l'habitat participatif et qu'on se réunit.
Donc la réalité économique, on n'y échappait
c'est-à-dire,
pas.
C'est-à-dire, j'ai parlé de moins 20%, ben, il reste 80%. Hein.
Bien sûr.
C'est-à-dire, on ne peut pas espérer, et même en logement social, y a des loyers en logement social qui sont calculés sur la base des revenus des personnes. Voilà, c'est évident, hein. Mais ce n'est pas gratuit. Et puis après, il y a quelque chose qui n'est pas gratuit non plus, il faut s'investir.
Donner du temps.
Voilà, les gens qui pensent, on a une belle équipe, on a une association, ou on a des accompagnateurs, moi je suis le truc de loin et j'arrive.
Donc donner du temps, de l'engagement.
Voilà. J'arrive le dernier jour et j'ai les clés de mon logement. Non, ça ne marche pas comme ça.
C'est pas comme ça.
Voilà, il faut s'investir.
Très bien. Alors investissons au sens large, pas uniquement financier. Je vous remercie l'un et l'autre, Monique Aubory et Gérard Stroman, et à une prochaine fois peut-être.
Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
La Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.